France Inter.fr.
France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Les carnets dans le Val d'Oise, dernier tour d'horizon, dernier tour de piste, avec des femmes volontaires et parfois des femmes d'exception. Je prends un exemple en ce qui concerne Alexandra, passionnée d'aviron, adhérente de la Société Nautique de l'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône. La jolie Alexandra, frappée par la mucoviscidose, a subi une double greffe des poumons. Elle veut prouver qu'une vie intense est possible et à 21 ans, elle se lance un petit défi de 17 km à la rame entre Tahiti et Moorea qu'elle relèvera en août prochain. Une campagne de soutien est en cours pour acquérir le bateau qui restera ensuite à disposition des enfants malades de Tahiti. Vous allez trouver les liens à nos pages d'émission, il y a la page Facebook et puis également le programme de financement participatif sur la plateforme Litchi. Et que dire d'Aurélie Daniel, jeune entrepreneuse handicapée, maman d'une petite fille, elle aussi handicapée. Sa société s'appelle Handi Possible, au pluriel. Elle va nous en préciser la finalité. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans les pages numériques de La Vie avec notre confrère Laurent Gibowski. Et ensuite, Mireille Mirège, femme volontaire engagée dans l'association La Pépinière du Pré, qui sème, comme elle le dira, des graines d'envie de lire et d'écrire à partir du siège du collectif à Parmain, dans le Val-d'Oise.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Aurélie Daniel, bonjour.
Bonjour.
Aurélie, chef d'entreprise, fondatrice de l'entreprise Handi Possible, Handi Handicap, et Possible au pluriel, parce que les possibilités que vous offrez sont multiples. Mais d'abord, vous êtes vous-même handicapé. Devenir chef d'entreprise quand on est handicapé, c'est plus difficile que pour un valide.
Alors ben déjà, moi j'aime les défis, donc j'ai avant d'être même chef d'entreprise, j'ai d'abord commencé par être éducatrice, et être éducatrice quand on est handicapé, en soi c'est déjà un défi. Mmh. C'est plus, je pense, un défi pour les personnes avec qui on travaille, parce que si on se lance dedans, c'est qu'on sait qu'on en est capable. Mmh. Voilà. Après, le problème c'est d'arriver à le faire entendre aux autres. Arriver à faire entendre, et alors là c'est encore plus subtil, que justement, de par notre handicap, on a même des choses en plus que eux n'ont pas. Mmh. Voilà. Alors ça peut paraître paradoxal parce que quand on a en tête handicap, on pense plutôt aux choses en moins. Mais le handicap, c'est aussi des choses en plus. Mmh. Voilà, c'est un regard différent, une ouverture différente, une façon d'observer, une sensibilité qui n'est pas la même que les autres. Mmh. Voilà. Moi, ça m'a énormément servi dans mon métier.
Et vous êtes maman d'une petite fille handicapée, elle aussi. C'est par cette expérience avec votre fille que vous avez décidé de créer Handi Possible.
Alors c'est lié à ma fille, puisque ma fille donc est une petite nénette qu'on a adoptée à l'âge de 2 ans et 3 mois. Elle en a 7 et demi maintenant. Avant de l'avoir, je travaillais en structure spécialisée, oui, à temps plein. Et le problème, c'est que son handicap à elle nécessite énormément de prise en charge. Et je ne pouvais donc pas avoir un emploi du temps fixe, à horaire fixe, sur trop d'horaires dans une semaine. Donc je me suis dit, histoire de rentabiliser, si je peux dire ça comme ça, l'histoire qui est la mienne, aussi bien personnelle que professionnelle et en tant que maman, je me suis dit, je vais mettre ça au service des autres et à moi en même temps, puisque du coup, ça me permet d'avoir un emploi du temps que je choisis moi en fonction du sien.
Et Aurélie, sans être critique, bien sûr, sur les structures spécialisées, on comprend par votre démarche et la création d'Handi Possible qu'elles ne peuvent pas tout faire. Il y a des limites aussi à l'aide aux personnes handicapées.
Alors, la première limite en France, on le sait, hein, c'est le manque de structure. Ensuite, il y a l'école qui est ce qu'elle est. On ne va pas non plus casser du sucre, mais il y a des difficultés qui sont bien réelles. Les instits et même les AVS d'ailleurs, les auxiliaires de vie scolaire, ne sont pas formés. Donc oui, c'est vrai qu'accueillir des enfants en situation de handicap, c'est pas simple. Et il y a énormément de familles confrontées au handicap, que ce soit d'un enfant ou d'un adulte d'ailleurs, pour lesquelles il y a un manque énorme de prise en charge. Et donc, ce qui est très dommageable, beaucoup de temps perdu parce que ils sont tout seuls dans leur coin, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de travail éducatif mis en place. Et du coup, c'est dommage, parce qu'on perd du temps.
C'est-à-dire que tout le monde est pénalisé, les enfants comme les parents.
Bien sûr, parce que vivre le handicap dans une famille, et surtout selon le type de handicap, ça met à mal toute une famille s'il n'y a pas de soutien derrière. Énormément de familles sont confrontées au fait que l'un des parents est obligé d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant. Ouais. Donc, quand en plus ils n'ont pas d'outils pour faire évoluer leur enfant, c'est encore plus difficile à vivre.
Alors, c'est en particulier ce que vous faites avec Handi Possible. Alors, quels sont ces outils?
Alors les outils, bah, c'est partager toute l'expérience qui est la mienne. Par exemple, là j'ai un petit bonhomme de 3 ans et demi que j'ai connu au mois de septembre. Petit bonhomme dont on sait toujours pas ce qu'il a comme pathologie réelle. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'audition entre autres, mais il n'y a pas que ça. Et bah, moi j'avais une maman en larmes en face de moi en me disant « je n'ai jamais pu communiquer avec mon fils ». Eh bien, c'est un petit garçon qui a des pictogrammes avec lesquels il peut communiquer. Il peut demander à aller aux toilettes, il peut demander à boire. Dans un jeu, il peut demander la couleur qu'il souhaite, etc. Tout ça, ça a été fait en l'espace de 3 mois à peine avec lui.
Il y a d'autres choses que vous faites, les ateliers créatifs et manuels dans différents endroits. D'ailleurs, au passage, les outils que vous utilisez là sont des matériaux de récupération. Donc vous avez une activité qui va dans le sens de l'économie circulaire et qui est complètement écologique.
J'essaye effectivement d'utiliser beaucoup de récupération, mais ça je le fais aussi justement dans ce que je conseille aux familles. C'est-à-dire que le matériel adapté coûte une fortune. Moi, je suis très basée, entre autres choses, sur la pédagogie Montessori, mais pas seulement. Le matériel Montessori est super, mais il coûte très cher. Or, Montessori, c'est avant tout un état d'esprit. Donc moi, je dis aux parents, bah, vous prenez des boîtes à œufs, vous prenez des bouchons, vous prenez des crayons, vous prenez, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et tout ce matériel-là, en réalité, on peut les faire travailler énormément. Ouais.
Et puis, vous avez développé votre entreprise au sein d'une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Port Parallèle Cergy, à Cergy-Pontoise. Mmh. Peut-être que vous avez trouvé dans la coopérative des activités complémentaires de la vôtre aussi.
Alors oui, on est plusieurs. Alors c'est vrai que l'avantage de la coopérative, c'est ça, hein, c'est aussi de pouvoir échanger avec d'autres. Et effectivement, on peut trouver des activités qui peuvent être complémentaires ou qui permettent d'agrandir le réseau, justement.
Ouais. Bah, premier réseau, c'est Clémentine qui en fait partie et qui exactement. Nous écrivait en parlant d'Aurélie, en parlant de vous. Elle sauve les familles souvent en détresse, en souffrance, isolées face au handicap et pallie aux carences de la société pour les accompagner. Elle ajoutait d'ailleurs, et parce que je ne l'ai pas dit, que vous formez les professionnels en contact avec les personnes handicapées. Personne extraordinaire comme l'écrivait Clémentine qui fait un travail extraordinaire. Handipossible.fr, il y a également une page Facebook. Les liens oui. dans nos pages d'émission. Merci beaucoup Aurélie.
Je vous en prie.
Merci, merci continuez. Restons dans le domaine éducatif avec encore une information qui peut intéresser les parents et les enseignants, si c'est votre cas, avec le courrier de Françoise, merci à elle, au sujet de l'école publique d'Épiet, rue village de 650 habitants, qui est dans le Vexin, donc dans notre département de cette semaine, et qui applique une méthode innovante en mettant l'enfant au centre de la pédagogie. Alors j'insiste, il s'agit bien d'une école publique, hein, c'est pas une école privée, école élémentaire public et primaire public. Et cette question de l'enfant au centre de la pédagogie est souvent avancée sans vraiment trouver de solution convaincante et puis elle fait régulièrement l'objet de nombreuses résistances. En fait, cette école, comme d'autres qui épousent la même organisation, est labellisée éco-école. L'éco-école, c'est un programme de Terre Agir, nouveau nom de l'ancien office français de la Fondation pour l'éducation et l'environnement en Europe. C'est vrai que c'est plus facile de dire Terre Agir. Ce programme qui s'adresse entre autres aux enseignants et aux parents, sans pour autant être exclusif, propose de comprendre et d'agir au profit de l'environnement et du développement durable. Concrètement, au niveau éducatif, ça veut dire quoi? Au niveau de l'école, il part du constat que les enfants des écoles primaires ont des baisses d'attention que l'on réduit par des cours pratiques. Par exemple, c'est faire de la science dans un espace naturel extérieur, ce qui est le cas à l'école des Bosquets de Épiet rue. Et puis, c'est aussi une organisation de la journée qui commence par un temps de parole partagée avec les enfants qui sont plus autonomes, plus responsables, sans pour autant évidemment relâcher les exigences de l'éducation et de l'apprentissage. Les anciens enfants, nous dit-on, de cette école des Bosquets, des Pierrues, sont souvent les premiers dans la plupart des disciplines dès leur entrée au collège. Soutenus par le réseau Ashoka, porté par l'entrepreneuriat social, mais qui a ajouté l'éducation comme levier de changement sociétal, cette pédagogie a donné lieu à la réalisation d'un film tourné dans 9 établissements établissement scolaire labellisé Éco-École. La première de ce film a été projetée fin janvier à Ennery, dans le Val-d'Oise. Elle a pour titre Une idée folle, et vous pouvez trouver la bande-annonce sur un site qui est uneidéefolle-lefilm.com. Et ce rêve fou, je cite notre correspondante, est celui de former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure. Si vous voulez connaître le réseau Éco-École, c'est éco-école.org. C'est aussi simple que cela. Mireille Mirège, bonjour.
Bonjour.
Mireille, tiens, je suis en train de penser à un beau prénom provençal.
Absolument, il paraît même que ça veut dire merveille.
Alors Mirège, c'est pas loin de merveille. Alors Mireille Merveille. Et alors dans la lettre que vous nous avez écrite, vous nous avez parlé du Pré Duplein, une société d'édition, et de la pépinière du Pré, qui est associative, enracinée dans son berceau de Parmain, une petite ville nichée au pied d'un plateau à la Giono propice à l'inspiration. Je me disais, bon, Giono lié à Parmain, au Val d'Oise, non, c'est plutôt l'inspiration des lieux.
Tout à fait. Giono est bien provençal, comme mon prénom.
Oui.
Mais mes origines ne sont pas de Provence, c'est parce que ce plateau, en plein Val d'Oise, donc à quelques kilomètres de Paris, s'étend sur des kilomètres sans une seule route pour le rompre, qu'il m'a fait penser depuis des années au livre de Giono, qui nous situe toujours dans des univers un peu isolés comme ça, un peu mystérieux.
Le Pré Duplein pour la maison d'édition Plein, P-L-I-N.
Alors, plein, ça vient de plaine.
Oui.
En fait, c'est le nom d'une terre, qui dans ce cas d'ailleurs n'est pas dans le Val d'Oise, mais qui est en Haute-Saône, une terre aussi fertile que peut l'être l'amitié entre auteur, illustrateur et lecteur lorsque nous avons créé notre structure en association en 2003.
Le souhait de la pépinière du Pré, comme du Pré du Plein, c'était de réconcilier, dites-vous, les jeunes, mais pas uniquement, aussi les ados, et très souvent, maintenant, les adultes, avec l'écriture et la lecture.
Voilà, en fait, le Pré du Plein est une vraie maison d'édition, mais nous l'avions créée au départ en association, en voulant réconcilier par des formats spécifiques et des actions particulières, c'est-à-dire une grande présence dans les classes, avec surtout les enfants et les ados. Parce qu'en fait, les auteurs qui interviennent dans des classes s'aperçoivent qu'ils ont le pouvoir d'aimer, de faire aimer la lecture. Mmh. Et du coup, c'est devenu un devoir.
Et dans quelle classe vous intervenez ?
De la maternelle au lycée, depuis toujours.
Ouais. Le résultat est édifiant, parce que vous écrivez avec les enfants. Il y a un travail édité en décembre dernier. Vous éditiez votre 76e recueil, j'ai bien lu.
Voilà, alors là c'est le travail de l'association.
Ouais,
donc en 2007, on a scindé la partie éditoriale, c'est le Pré du Plein, et on a voulu garder l'association qu'on a rebaptisée la Pépinière du Pré. La Pépinière du Pré, en effet, édite des recueils d'auteurs en herbe. Dans une pépinière, en effet, on sème des graines d'envie de lire et d'écrire, et on s'adresse à des auteurs en herbe, c'est logique.
Et qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes pousses, qu'elles deviennent des arbres de sagesse ?
On veut surtout développer leur imagination et leur faire comprendre à quel point la lecture, l'écriture sont des données primordiales. Parce que on ne peut pas être sans imagination et on ne peut pas cultiver son imagination sans lecture.
Vous portez un projet qui s'appelle « Restituer et transmettre ». Alors là, ça devient doublement intéressant parce qu'on parle d'un public adulte et d'un public en insertion.
Voilà, c'est parce que pendant longtemps, en riant un peu, on se disait qu'on préférait s'intéresser aux enfants et aux ados, parce que au moins, il y avait l'espoir de les changer, tandis que pour nous, les adultes, c'était fichu. Ce qui n'était pas très gentil, un peu humoristique. Et puis, le hasard a fait que nous avons été contactés pour faire un travail d'accompagnement auprès de salariés d'un chantier atelier d'insertion. Et nous avons tout de suite proposé de faire un livre avec eux, comme nous le faisions avec des ados depuis des années. On a appliqué notre méthode de valorisation par la bienveillance, par exemple, à des adultes. Et ça a été absolument extraordinaire.
Et puis alors, une dernière chose, rapidement, vous avez un blog, c'est le blog web @plume, qui permet de mettre en relation des auteurs en herbe, parce qu'on parlait d'eux tout à l'heure, avec des auteurs confirmés.
Web à plume, ce sont des tutorats d'écriture, c'est-à-dire que nous mettons en relation de jeunes auteurs de 8 à 18 ans avec des tuteurs d'écriture qui sont auteurs ou correcteur, enseignant en retraite, etc., etc. Et puis, il y a Web à Plume Plus qui s'adresse là aux auteurs de plus de 18 ans, mais à condition que le français ne soit pas leur langue d'origine, puisque nous ne voulons pas alors être en concurrence déloyale avec des correcteurs professionnels, parce que ce sont des tutorats entièrement bénévoles.
Relis un site, c'est lapépinièredupré.free.fr, ça c'est le site de l'association. Webaplume.fr, vous allez trouver aussi le lien. Merci beaucoup Mireille, et bravo.
Merci infiniment.
La semaine prochaine, nous allons planter nos micros dans le département des Yvelines, conjointement au jeu des 1000 euros. Lundi, on vous présentera le réseau monépi.fr, des épiceries gérées par des consommateurs pour des produits à prix coûtant, c'est à découvrir. Et vous aurez plein de portraits la semaine, j'insiste, mercredi pour la rencontre avec des chefs d'entreprise d'exception comme Sarah Ouramoun, boxeuse médaillée à Rio, diplômée de Sciences Po, directrice d'une entreprise qu'elle a créée, Boxer Inside. Avant de nous séparer, le mois de mars, la Loire, le Puy-de-Dôme à l'affiche, la Belgique, amis, voisins belges, n'hésitez pas à nous écrire, et le département du Nord. Merci à Juliette Gou qui réalisait les carnets, merci à Joël Levert qui leur donnait du contenu, à Nicolas Slimani qui les mettait en onde. Aujourd'hui, Nicolas Stouff, l'assisté de Yann Pailleret, le jeu des 1000 euros à Pirelet, dans le Val-d'Oise.